When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Alternative football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative football.
Le podcast hors terrain de SoFoot, présenté par Édouard Cissé et Mathieu Lille-Palette, avec l'appui de la conscience Maxime Marchand.
Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode d'Alternative Football. Je suis tout heureux aujourd'hui parce qu'il y a autour de la table Édouard Cissé.
Bonjour, salut, Édouard. Salut Max.
Mais aussi Didier Poulmer, que vous connaissez peut-être, nos habitués du podcast. Didier, du coup, qui est avocat et fiduciaire. On y reviendra après, tu nous donneras la définition.
Avocat fiduciaire.
Ouais, avocat et fiduciaire. Pour moi, c'est deux termes. Avocat fiduciaire ou avocat et fiduciaire?
La fiducie, ça y est, c'est parti là.
C'est parti là.
Alors déjà, bonjour.
Bonjour.
Merci de me recevoir. Et si déjà, on commence sur cette question, c'est minimum 2 heures d'explication.
Non, c'est pas la première question. La première question, c'est celle d'Edouard, et puis après, on y reviendra.
Avocat fiduciaire.
Tes premiers pas dans le foot, tu peux nous les expliquer?
En tant que joueur ou en tant que...
Mais exactement, parfois non, joueur, j'ai... enfant, et puis après dans le milieu pro.
Tu sais ce qui est chouette, mais on est beaucoup comme ça, c'est que j'ai quand même beaucoup de souvenirs de sport, et notamment de foot, et pas énormément de souvenirs de ma jeunesse et tout ça. J'en ai bien entendu quelques-uns, mais ça a quand même... ça comptait vraiment pour moi, quoi. Ça, rentrer sur un terrain, c'était un truc, quoi. Tu vois, je te parle de en face de chez toi, tu vois, j'allais jouer... Et à tel point que j'ai fini vraiment par être un très mauvais élève, qui était quasiment le dernier de ma classe. Et quand le prof principal a dit à mon père, qui n'est pas un petit rigolo, il lui a dit « Didier, il fait principalement du sport, accessoirement des études », là, mon père a compris qu'il y avait un problème. Et donc, il m'a dit, c'est retourné, mais il m'en a collé une, je crois. Mais après, il a dit « On va inverser le ratio ». Et je suis parti en pension chez les jésuites.
Ah oui, quand même, il a fallu ça, parce que sinon, t'étais picouzé au football.
J'étais vraiment... Je trouvais tous mes pantalons, ma mère, elle n'en pouvait plus. Je finissais par être en short l'hiver, tu vois, parce que quand tu joues au foot, bah, tu trouves tes pantalons dans les cours de récréation. Mais après, chez les jésuites, c'était sympa, parce qu'il y avait une cour qui ressemblait un peu à une cour de prison, tu vois. Mais on jouait au foot là, j'en ai encore des souvenirs, tu vois. Il n'y avait rien, il y avait 3 arbres, et puis c'était vraiment une cour qui ressemblait à une cour de prison. Et quand j'étais pensionnaire, quand tu sortais de cours, tu avais ton petit goûter, un jour chocolat, un jour pâte de fruits, tu vois, toujours après la fin, ça saoule un peu, mais bon, t'échangeais après la pâte de fruits contre ton chocolat. Et on jouait au foot. Après, on avait un moment avant de partir en études. Donc, pour te répondre à ta question, j'ai pas un souvenir vraiment, mais le foot a compté quand j'étais gamin. Vraiment.
Et niveau professionnel, quand c'est que t'as décidé de. En fin de compte, ouais. Quand c'est que le milieu professionnel t'a appelé quelque part?
Il m'a pas appelé.
Ok.
Ouais, non. Non, j'étais un petit gars de province, comme il en existe beaucoup, tu vois. Et je suis arrivé j'ai suivi un cursus pour être avocat. Et puis, c'est vrai que j'aimais le sport. Et puis, quand j'ai vu qu'à un moment donné, je crois que c'était il y a eu une petite opportunité, c'était pour un pilote de karting. Et voilà, j'ai glissé mon pied dans la porte, tu vois, en disant peut-être qu'il y a un truc sympa à faire. Et j'y suis allé. Mais c'est vrai que j'étais marqué par le fait que ce milieu est un milieu quand même qui est fermé. Et je m'en souviens à l'époque, hein, parce que j'ai vraiment galéré, tu ouvres les portes, on te reçoit, on te met dehors, etc. Bon, je suis pas le seul, hein, et quand t'arrives et que tu connais personne. Et je me suis toujours dit, quand même, il faudra pas que t'oublies que c'était quand même si dur. Et donc, je me suis dit, il y a longtemps, parce que j'ai 55 ans, bientôt 56, je me suis dit, quand même, chaque fois que quelqu'un te demandera un avis, une aide, quoi que ce soit, tu le feras. Et je me suis toujours tenu à ça. Et des fois, je reçois des emails, etc. Mais j'oublie pas combien c'est dur quand tu arrives et que tu connais vraiment personne et que tu as une envie. Et donc, moi, je motive les gens, je leur dis d'y aller, je dis que c'est un super secteur. Et tu vois, c'est fermé quand même. Tu veux aujourd'hui rentrer dans un club ou quoi que ce soit, c'est chaud quand même. C'est au final pas beaucoup de monde, quoi. Et c'est vrai que le sport, moi, je considère qu'il m'a sauvé. Je dis ça parce qu'il m'a ramené vraiment là d'où j'aurais jamais dû partir. et d'où des fois la vie t'éloigne, hein, pour plein de raisons. Et je considère que le sport est central. Et je pense que dans la vie, on devrait choisir son travail en regardant si ça te permet de faire vraiment le sport que tu veux. Et la société n'est pas faite comme ça. On est là à quelques mois des Jeux. Donc il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Sport en entreprise, on n'en parle plus, etc. Mais je suis intimement convaincu que le bon équilibre, il est dans l'équilibre entre les deux. Et donc c'est pour ça que le football, alors c'est pas le seul sport, hein, justement,
oui, bien sûr,
on en parle beaucoup ici, et c'est super, mais on en viendra à ça, parce que je pense que tout ce qui est arrivé au football, et tout ce qui arrive au football, et le fait qu'il soit très mis en avant, qu'il soit, tu vois, ça lui donne aussi peut-être une responsabilité. C'est ce que j'aime bien, moi, dans cette idée. Ouais, une responsabilité. Je pense qu'il attire beaucoup, tu vois, y compris donc pour le coup l'économique, l'argent.
Oui,
Et du coup, quand je vous parlais tout à l'heure avant d'en arriver du badminton, bah ouais, c'est pas pareil. Voilà, mais c'est vrai que le football fait rêver. C'est vrai que c'est un sport fabuleux parce qu'avec une boule de papier, tous les trois, là, on peut jouer au foot, tu vois, dans cette pièce. Donc ça, c'est top. Moi, jouer dans les couloirs chez moi, ma mère hurlait, on jouait avec mon frère dans notre couloir, là. Donc c'est vrai que c'est un sport qui est incroyable. Mais je trouve qu'il a eu beaucoup, et donc il est de la responsabilité de tous les acteurs, je me mets dedans, moi, à mon modeste niveau, de contribuer à ce qu'il ait quand même un peu une valeur d'exemplarité aussi, tu vois, dans sa capacité à bien intégrer tout cet intérêt qui suscite autour de lui. Et donc les présidents de club, la fédération, la ligue, des professionnels comme moi, comme les confrères et consoeurs, on a une responsabilité, oui.
Du coup, ça nous ramène à la toute première question, à la première question, celle qu'on a posée sans te la poser, mais à savoir qu'est-ce que un avocat fiduciaire. Est-ce que tu peux, pour les nuls, j'ai vu que tu avais écrit l'avocat fiduciaire ou la fiducie pour les nuls, je sais plus. Est-ce que en quelques, on va te laisser peut-être une minute quand même.
Mais parce que est-ce que ça peut être l'une des raisons pour lesquelles à un moment donné, il y a eu les fonds d'investissement sont venus te voir. T'as dû les rassurer par rapport à ta profession.
Je sais pas, je peux pas, je pense pas. Non, c'est une bonne question. Alors, c'est long.
Succinctement,
c'est que j'essaie d'en faire.
Qu'est-ce
une
qui
phrase.
Différencie un avocat fiduciaire d'un autre avocat, quoi?
C'est que moi, je n'ai pas de clients. Nous, enfin, je dis nous parce que bon, je suis une équipe, ouais, hein, je suis pas seul. Moi, c'est toujours un peu le truc aussi du sport, ça met toujours en avant. Et moi, aujourd'hui, j'ai une équipe. C'est-à-dire tu vois, c'est
le
nous.
On comprend. Ici, on connaît.
Ouais, c'est le nous. On est une équipe et on fait de la fiducie. Et la fiducie, c'est une technique qui te permet de te voir transférer des droits ou des biens et de faire des équilibres entre ceux qui avaient initialement ces droits et ces biens et ceux qui peuvent être intéressés par les récupérer. Ça a beaucoup d'applications, donc c'est pour ça que ça peut être un peu technique, je ne vais pas saouler tout le monde avec ça. Mais en tout cas, la raison pour laquelle moi je suis allé dans cette direction et j'ai essayé d'entraîner avec moi une équipe, c'est que dans le sport, tu as quand même, et dans le football en particulier, tu as des déséquilibres. D'abord, entre les joueurs, il y en a qui peuvent ici en parler,
ouais.
Et tes dirigeants, ta ligue, la fédération, après on y a ajouté des sponsors. Et donc tu as maintenant vraiment des acteurs très différents, de nature très différente. Ils viennent chercher dans le sport et dans le football des choses différentes. Et donc ça fait aussi des fois des tensions, ça fait des incompréhensions, ça fait peut-être des méconnaissances, parce que quand on a passé sa vie et quand ta famille s'est mobilisée pour amener... un gamin, une gamine au plus haut niveau, quand t'as après des gens qui viennent te voir, qui peuvent être ou des agents, ou des avocats, ou je ne sais quoi encore, ben... Ouais, tu vois, ils n'étaient pas là au début, donc... Ouais. T'as bien connu ça, tu vois, je vois qu'ils
sont... Les gens ou le public t'a connu surtout pour avoir représenté un temps les intérêts de sportifs connus, comme Lorman Odou, Johan Gourcuff ou autres, mais c'est plutôt du coup sur... Enfin, peut-être que tu me contrediras, mais en tout cas sur l'aspect sportif et football, la majorité de ton travail, c'est plutôt sur aider aux ventes ou au rachat de clubs, ou alors tu... Est-ce que tu peux nous présenter toute la palette de services par lesquels les gens du milieu du foot passent par toi?
Alors, encore une fois, c'est pas moi, c'est nous.
Non, pardon.
On est une équipe.
Oui, pardon. Non,
je te dis ça parce que tu sais, et c'est ça le problème du sport et de sa médiatisation, c'est que ça, même moi qui, encore une fois, ne suis qu'un professionnel et que je me retrouve des fois à être dans des pages de... Franchement...
Non, t'es contre le Ballon d'Or.
Pourquoi tu dis non, ah non, c'est autre chose. Ah non, mais non, 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 c'est, non. C'est, non, mais non. Si tu disais, Didier, est-ce que tu veux avoir la toque d'or ou la robe d'avocat d'or, ça c'est autre chose. Non, ouais, la non, récompense d'accord. C'est une
non,
chose.
Mais le non, nous, mais il n'y a pas de souci.
La médiatisation, nous, on est des professionnels et quand tu en médiatises un, et moi je vois mes collègues, ils font tout ensemble des choses extraordinaires et des fois, moi je me retrouve mis en avant. Il n'y a franchement pas de raison particulière, si ce n'est que je me retrouve des fois dans des dossiers qui l'appellent. Mais moi, je ferme cette parenthèse. Ce que j'ai essayé de faire au fil du temps et autour de quoi on a essayé d'agréger une équipe, c'est de se dire que tu as un enjeu global dans le sport, et le football bien entendu au premier rang, de rapprochement du monde économique et des acteurs du monde économique avec les acteurs du monde du sport. Et quand je dis les acteurs du monde du sport, c'est bien entendu les clubs professionnels, tu vois, les structures professionnelles, mais elles sont irrémédiablement attachées aux associations qui ont le numéro d'affiliation. Donc, quand nous, on s'intéresse, comme on l'a fait encore une fois l'été dernier à Sochaux ou un peu plus tôt à l'OM ou autre, ce qui est intéressant, c'est l'ensemble. C'est pas uniquement la vitrine, elle est importante, il y a des gros enjeux, on a besoin de faire des contrats, donc on est là pour faire toute cette structuration et cette sécurisation de cette partie économique. Mais moi, ce qui m'a intéressé à Sochaux, c'était de voir que le sauvetage du club, il permettait de sauver le centre de formation. Et donc, pour répondre à ta question, nous, on essaie de faire un pont entre le monde économique et les acteurs du monde du sport. Et c'est donc on est une sorte de pont. Effectivement, la différence, pour répondre aussi à ta question, entre l'avocat et l'avocat fiduciaire, ben nous, quand on est fiduciaire, on crée des véhicules juridiques qui s'appellent des fiducies et on fait des passerelles et on se sert de ça. Par exemple, l'acquisition du club de Sochaux entre les Mendenking, on l'a fait nous en tant que fiduciaire. C'est-à-dire que c'est moi qui ai signé le contrat d'acquisition des actions de Nenking parce qu'à un moment donné, il faut structurer les choses, il faut les organiser et que dans le temps qui nous était imparti...
Pourquoi c'est toi qui l'as fait du coup? Pourquoi
non, toi, long, pas... parce qu'il n'y avait pas de temps, parce que les acteurs économiques n'étaient pas encore rassemblés.
Okay, donc tu ramènes un gage de sécurité, une garantie.
Oui,
voilà.
Oui, okay, d'accord. On met en place un process, tu vois, pour sécuriser les choses. Et c'est vrai que, comme il y a cette recherche d'équilibre, je pense que l'équilibre, il est important, tu vois, d'une manière générale dans la vie, mais dans le sport aussi. Il va falloir qu'on réussisse à trouver des équilibres entre le business, le rôle que jouent les clubs sur les territoires. Tu vois, moi, Sochaux, c'était quand même flagrant. Premier match, je crois, il y a 15 000 ou 16 000 personnes. Tu vois, ouais. C'est le sport et le football encore plus, mais c'est valable pour le rugby et pour d'autres sports collectifs. C'est des vitrines non seulement de leur territoire, mais c'est surtout un lieu de rassemblement. Tu vois, qu'est-ce qui permet de rassembler autant de monde, tu vois, dans un soir, pendant deux heures, donc, moi, j'invite, et c'est le travail qu'on fait aussi au quotidien, à sensibiliser les collectivités, qui ont certes un peu moins d'argent, elles sont elles-mêmes dans des... Mais tu vois, on a créé la SKIC, qui est une structure qui permet coopérative d'intérêt collectif. Bastia s'est fait comme ça. Nous, enfin, à Sochaux, ils sont en train de le faire aussi. On se dote d'outils. Tu vois, on se dote d'outils. On a des outils en droit, en juridique, en finance. Il y en a qui le font dans d'autres domaines. Mais c'est-à-dire que c'est pas parce qu'on a créé des structures qui sont nécessaire, et encore une fois, je suis pas l'abbé Pierre du sport, donc je suis là pour défendre l'économique et le fait de récupérer des moyens. Mais il n'est pas écrit que parce qu'on a créé des outils qui permettent de financer le sport, que pour autant il faille peut-être trop s'éloigner de ce qu'est la raison d'être de ce jeu. Ouais. Tu vois?
Et voilà. Tout à fait d'accord. On va revenir à la question, parce que sinon on va oublier. Je vais la poser un petit peu subtil. Tu vois, moins journaliste, beaucoup plus ancien joueur, un peu mené.
Je te regarde.
Et du coup, c'est quoi la différence? Toi, tu as fait, tu as participé au dossier de rachat de Sochaux.
Oui.
Tu as aussi participé, même si tu ne l'as pas, vous avez participé aussi à celui de Marseille.
Oui.
C'est quoi la différence, la principale différence qu'il y a entre les deux rachats?
Oh, c'est pas les mêmes histoires, c'est vraiment pas les mêmes. Non, c'est pas les mêmes histoires, mais dans les deux cas, et c'est intéressant ta question, parce que c'est vrai que en plus c'est très opposé, tu vois, quand tu vas de Sochaux à Marseille, là tu passes vraiment, c'est presque, j'allais dire, deux
pourtant,
pays
différents. Pourtant il y a de l'histoire, il y a des supporters, enfin il y a un ancrage territorial, il y aurait pu avoir.
Ouais.
Bon bref, je te laisse répondre.
Le point commun quand même des deux, c'est que ça reste des sujets complexes. Parce que comme c'est le foot, tout le monde a un peu un avis sur tout. Et que chacun ne respecte pas forcément juste ce qu'il a à faire. Donc, alors, en plus, l'OM, il y avait plus d'enjeux. Le club allait mal, hein, comme dans ouais. le cas de Sochaux. Donc, chaque fois, tu arrives dans des situations un peu complexes. Et nous, on applique à chaque situation des méthodes, enfin, une méthode qui est souvent la même, mais en tout cas adaptée à la situation. On déroule des process, donc tu as des phases d'audit, tu cherches à savoir dans quel état est le club sur le plan juridique. Après, on se fait accompagner par des financiers, il y a de très bons financiers dans l'univers du sport, donc on audite la situation financière. Et après, ce qui est essentiel, c'est de rentrer dans le club. Avant même de...
Et toi, tu interviens auprès de qui en tant qu'indépendant? C'est l'acheteur qui t'a...
Alors, les cas de figure sont très différents.
Parfois, c'est l'acheteur.
Des fois, c'est le vendeur, des fois, c'est les collectivités. On peut vraiment arriver par différents biais. Okay. Et
dans ces dossiers-là, c'est quoi, bouche à oreille? C'est toi? C'est le club acheteur? Ça dépend. Tu sais pas.
Il n'y a pas d'histoire.
T'as reçu un message, rendez-vous à la commanderie.
Sochaux, on m'a appelé. Il y avait une personne, quelqu'un qui a été un de mes étudiants, qui s'est retrouvé là aussi à essayer d'aider et qui m'a appelé. C'était le lendemain.
C'est la beauté du foot.
Et de la vie. Très bien. Je pense que dans mon chemin, il y a une part de destin. J'ai pas tout choisi, tout calculé.
Si je sais, moi, comment vendre une paire de chaussures, je la mets sur le bon coin. Il y a un acheteur qui me contacte via le bon coin. Même si tu vas me dire qu'il y a 1000 scénarios possibles pour la vente d'un club, est-ce qu'il y a quand même des choses communes? Comment on achète et comment se vend un club de foot, quoi? Est-ce qu'il y a une procédure? Est-ce qu'il y a des choses techniquement qu'il faut suivre et que pour tout à chacun qui n'hésite pas à rentrer dans la partie technique aussi, parce que les auditeurs aiment bien aussi, nos auditeurs aiment bien ça, quoi.
Ouais, alors déjà, et ça nous permet vraiment, on peut évoquer tellement de sujets. Moi, je ne suis pas dans le name dropping, comme on dit, ce que je...
Non, tu vois, voilà. Non, on aime pas parce que...
Déjà, pour acheter un club, il faut qu'il y ait un vendeur. Il faut quelqu'un qui veuille vendre. Or, si tu regardes, et là, on peut donner des noms, parce que ce sont des informations qui sont publiques. Un des problèmes du foot aussi, c'est que quand les gens sont dedans, ils sont un peu picousés parce qu'effectivement, ils sont presque plus importants que le maire. Ouais. Tu vois, ils ont... Non, mais ça te donne un statut, une reconnaissance, une puissance que, franchement, avant de vendre... Là, je ne veux pas donner de nom parce qu'il y a des choses qui sont en cours et sur lesquelles on travaille, mais... Et je peux comprendre. Donc, moi, je jette la pierre à personne, mais tu as peut-être des gens, des fois, qui gardent. Il y a un moment donné où si tu y arrives pas, non mais tu vois dans la vie c'est comme dans le sport. Hein,
si tu veux pas, en fait.
Des fois tu y arrives pas, ben faut essayer différemment. Mais je vais répondre à ta question parce que ça c'est lié aussi à ça. Donc il faut qu'il y ait un vendeur. Et ensuite tu rentres dans un process où effectivement tu commences à discuter déjà est-ce que le vendeur est intéressé par vendre aux conditions auxquelles l'acheteur est prêt à acheter. Donc tu as une négociation classique qui effectivement fait appel aussi à des avocats parce que tu balises les différentes étapes d'abord de ce qu'on appelle une lettre de confidentialité ou un engagement de confidentialité, après tu signes une lettre d'intention, donc tu pars du très général et tu balises le terrain pour aller jusqu'à peut-être même un contrat d'acquisition, et ce contrat, il détient des garanties d'actifs et de passifs, donc ça, tu le négocies, c'est technique, tout ça, mais c'est intéressant, parce que c'est un process, c'est un secteur économique, ce sont des entreprises. Mais ce qu'il y a de vraiment intéressant, c'est que si tu appliques ça, comme moi, je l'ai appris, parce que j'étais formé à ça, tu vois, j'étais, moi, le petit gars qui joue au foot dans son coin et qui n'était pas un très bon élève, et à qui, un jour, on a mis une armure en disant, voilà, tu vas être avocat et tu vas aller dans l'arène. Moi, je suis allé dans l'arène. Si tu vois, dans ces films, dans ces dessins animés, il y a un gars qui arrive, il a un peu son épée, son casque, il est un peu branque-ballant. Moi, je connaissais pas grand-chose et à rien. Et j'ai appris une technique. Mais je me suis rendu compte que cette même technique que j'ai pu appliquer j'étais un jeune collaborateur, d'abord un stagiaire, collaborateur, appliquée dans le sport, ben, je faisais des dégâts, quoi, entre guillemets. En ce sens que si tu appliques les choses sans bien prendre conscience de la dimension humaine et dans sa forme, c'est pas simplement, oui, c'est des humains comme dans tous les secteurs, mais il y a trop de parties prenantes qui sont différentes. Et parce que nous, c'est né vraiment très très loin avec le sport amateur, on a été, par rapport aux anglo-saxons, plus tardif dans la professionnalisation. On a encore ce schéma, tu vois, pour expliquer, moi, aux anglo-saxons avec qui on a travaillé, tu vas acheter une société, mais elle n'a pas le numéro d'affiliation, donc c'est plutôt l'association. C'est complexe, mais ça répond quand même à une histoire, et laquelle histoire, elle est quand même défenseuse de beaucoup de choses, de beaucoup de valeurs. Et effectivement, tous ces garçons qui sont aujourd'hui millionnaires ou multimillionnaires pour certains qui jouent au foot, au départ, ils sont dans des petits clubs, plus ou moins, pour l'amateur. Et donc, il y a une histoire, tu vois. Et donc, ces techniques que je commençais à décrire d'acquisition, tu vois, d'audit, de négociation, etc., à mon sens, tu te dois quand même de bien mesurer que tu rentres quelque chose, donc quand même l'actif au sens économique, mais même plus... C'est l'homme et la femme, tu vois, c'est l'humain.
Mais est-ce que c'est un discours que tu arrives vraiment à tenir? Parce que si au début, t'as peut-être fait cette technique sans penser aux conséquences humaines que ça peut avoir...
Enfin, tu les connais, mais...
Ouais. Comment t'arrives, parce que toi, les gens avec qui tu travailles, collabores, c'est pas non plus Cendrillon, quoi. Enfin, c'est pas le monde de Disney, c'est pas des bisounours. Ouais. Donc, comment toi, avec cette vision que tu as, que peut-être pas tout le monde partage, mais face à ces personnes qui sont avant tout des entrepreneurs, qui derrière, parlent d'argent, comment t'arrives à insuffler ça et est-ce que ça te met pas en position de porte-à-faux parfois? Comment concrètement t'arrives à faire passer ce message-là et, ouais, de garder des emplois, du fait qu'il faut prendre l'ancrage, le territoire, ménager un peu la municipalité, la localité. Enfin, comment tu y arrives à leur faire passer ce message-là? Parce que c'est pas simple. Hein.
Je prends juste un peu le lead. En fin de compte, quand un club de foot, on pense toujours... On va parler des grands clubs, même le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille. En fin de compte, ce qui est très important, c'est qu'ils ont besoin de l'association. C'est via l'association, donc l'école de foot, hein, le territoire, qui peuvent avoir des subventions et qui peuvent être ce qu'ils sont. D'où la nécessité d'expliquer à des repreneurs ou quoi que ce soit qu'il y a une importance de l'école de foot. L'importance de l'école de foot. Voilà, après je te passe le bébé.
Mais tu t'as en partie, Edouard, répondu, c'est que si je parle de ça, c'est effectivement, encore une fois, je ne suis pas l'abbé Pierre du foot, j'aimerais bien avoir cette image, ce n'est pas mon cas. Je suis un professionnel, je suis au service d'intérêts, y compris économiques. Le mouvement de socios qui s'amorce aujourd'hui en France, il est superbe. Hein. Nous, pour donner l'exemple de Sochaux, les chiffres sont plus ou moins connus, mais ils sont un des acteurs importants de la reprise, les socio-shows. Alors, tu disais, ça répond à ta question, comment tu fais, ton discours est peut-être un peu décalé. Oui, mais moi, quand je me suis retrouvé avec des acteurs économiques, les socio-shows de l'autre, j'ai dit, on les intègre dans le conseil d'administration, c'est génial. Alors, si tout le monde m'avait dit non, on ne l'aurait pas fait, mais les acteurs économiques ont trouvé intéressant.
Les parties prenantes, quoi.
Oui, les parties prenantes. Tu vois, ils sont aujourd'hui non seulement actionnaires, ils sont dans le conseil d'administration. Et là, tu commences à remettre un peu de collectif. Et là, tu commences à remettre des choses. Et les collectivités ont été là aussi. Donc, tu vois, c'est un discours qui peut paraître un peu bisounours, mais qui, dans la vraie vie, tu vois, fonctionne. Alors oui.
Mais qui fonctionne plus en 2024 que quand tu as commencé.
Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est sûr. Et c'est vrai, il faut dire les choses aussi, que les Anglo-Saxons, qui sont quand même très pragmatiques, eux arrivent avec une histoire qui est un peu différente et eux vraiment ont réussi avec le sport et notamment sous la grande influence des Américains à injecter beaucoup d'argent et d'en faire des business. Oui, sauf qu'effectivement, quand tu es un club, quand tu es une franchise, tu obéis vraiment à des règles de business. Vraiment. Et donc, tu peux déplacer, si tu as même un problème économique, tu peux aller déplacer ta franchise de Los Angeles à New York. Ouais. Tu vois. Et nous, c'est pas notre histoire. Mais donc, pour revenir un peu à la technique, quand tu disais, on fait l'acquisition d'un club, il y a un sujet aussi qui est, j'achète, donc je négocie, je me fais mon contrat, je deviens propriétaire, qu'est-ce que j'en fais après? Et ça, c'est intéressant. C'est qu'aujourd'hui, dans le rapport avec les collectivités, sur le stade dont tu parlais, Edouard, on voit bien que le schéma qui était jusqu'à présent utilisé, ce qu'on appelait les partenariats publics-privés, qui est un schéma de financement dans lequel on a donné plutôt aux BTPistes, comme on les appelle, Bouygues, Vinci, Eiffage et compagnie, ils avaient cette capacité à financer, on leur a donné l'opportunité de prendre comme ça la gestion d'un certain nombre de stades. Aujourd'hui, on voit que ça ne fonctionne pas très bien. Donc, il y a de vrais travaux actuellement, de vraies réflexions sur la manière de faire évoluer ce modèle-là. Et que c'est un peu bizarre, c'est vrai que les clubs, que les actionnaires des clubs ne puissent pas quand même avoir une certaine maîtrise. Donc il y a des tentatives, tu vois, il y a des volontés. Alors, il y a l'exemple de Lyon qui est un exemple, mais sans aller jusqu'à faire construire son stade, ça a été quand même très complexe. Il a fallu beaucoup d'argent. Il y a des schémas aujourd'hui juridiques et nous, on travaille vraiment là-dessus. On a vu en Covid, quand tu enlèves le public des stades, tu vois, est-ce que l'OM, ça vaut autant quand il n'y a plus ses supporters? Je ne suis pas certain, tu vois. Et est-ce que les supporters aujourd'hui, il ne faut pas vraiment les associer et en faire une partie prenante, mais intelligemment pour leur valoriser ce qu'ils font, tu vois, moi, faire des tifos, faire la fête qui quelquefois... C'est un vrai job, quoi. Presque, il pourrait être rémunéré. Je ne veux pas lancer de trucs.
Ouais, mais... même à Strasbourg, l'année dernière, quand j'ai fait sur la Brèche.
Tu vois, ils font partie du spectacle, quoi. C'est du taf, quoi.
Alternative Football. Alternative Football.
comment t'expliques, peut-être que tu as une explication, pourquoi il n'y a pas plus d'investisseurs français ?
Il y en a quand même quelques-uns. Il y a à Lens, il y a à Lorient, il y a eu...
Lorient, maintenant, il y a eu l'Américain.
Oui, alors c'est raison, mais il y a eu
oui, globalement,
la famille Pinault, ça en est.
Voilà, c'est ça.
Michel Aulas, ça en est. Donc, non, tu as eu des Français. Et alors, je pense que la réponse n'est pas, et je ne prétends pas du tout avoir la vérité là-dessus, mais d'abord, quand même, la difficulté de pérenniser le modèle économique du football dans lequel tu perds de l'argent, quand même, souvent, fait quand même sortir beaucoup de gens qui n'ont pas envie d'investir pour perdre de l'argent. Tu en as qui le font parce qu'ils aiment ça, ou parce qu'ils sont piqués à ça, ou parce que c'était leur rêve d'enfant, ou parce que voilà, ça leur permet d'occuper une place dans la société.
Il faut des grosses fortunes, du coup.
C'est une démarche du coup un peu irrationnelle.
Ouais.
Tu vois, je crois que la famille Pinault et M. Pinault s'en est jamais caché. Il a voulu aider son club, il a voulu rendre à son territoire ce que son territoire lui avait donné. Donc c'est beau, moi je trouve que c'est noble. Je crois que Jean-Michel Aulas à Lyon a essayé aussi de faire la même chose et d'investir, de rendre à son territoire. Les fonds d'investissement, c'est un sujet assez complexe parce que. Je ne sais pas, moi. L'exemple de la famille Macour, c'est une famille, donc il y a une histoire familiale, il y a des moyens, ils ont été dans la construction autoroutière et tout ça, donc il y a une histoire. Les fonds d'investissement, c'est un sujet. Pourquoi ? Parce que tu ne sais jamais exactement, précisément, d'où vient l'argent. Alors, il y a des chèques quand même. À l'époque, j'avais travaillé, moi, dans ce qu'on avait appelé la grande conférence sur le sport, qui était une réunion à l'initiative du secrétaire d'État Thierry Braillard, confrère aujourd'hui, qui avait réuni des professionnels. Et on avait renforcé les pouvoirs de la DNCG pour que la DNCG contrôle. Quand tu as maintenant une acquisition de club, tu as une procédure où tu vas te présenter, le nouvel actionnaire va se présenter, le nouveau propriétaire, à la DNCG. Tu présentes un certain nombre d'informations. Donc franchement, c'est pour ça que je suis moi optimiste, enthousiaste, je pense qu'on est dans le bon sens de l'histoire. Les choses vont dans la bonne direction et tu as ces mécanismes de contrôle. Mais comme ça perd encore de l'argent, c'est vrai que ça peut être des fois étonnant de voir des fonds d'investissement arriver et investir des sommes colossales. Donc moi, ça peut des fois m'interroger. En me disant, mais qui est-ce qui accepte en bout jusque d'investir là, pour aller perdre de l'argent ?
Jusque-là, parce que l'argent était gratuit, donc pourquoi pas maintenant, de plus en plus, avec les...
Voilà, ça soulève des difficultés, mais il faut le prendre pour acquis parce qu'ils sont là, et il faut plutôt se dire, moi c'est en tout cas la manière dont on le prend, comment cet argent qui arrive, on peut le mettre au service du football français. Tu vois, ça me paraît, et ça a par exemple été fait à Toulouse. Toulouse, je trouve, c'est un très bon exemple, il faut leur tirer un coup de chapeau. Fonds d'investissement, ils ont fait un travail, regarde les résultats qui ont été ceux du club. Donc je trouve qu'il y a vraiment des choses qui sont vraiment bien, quoi. Mais si on doit se tourner vers l'avenir, ce qui nous intéresse, tu vois, on se dit, il y a des discussions, on va essayer encore, on est dans une compétition mondiale, donc on est face à Manchester United, City, etc. Donc comment nous, les Gaulois, on fait en sorte, tu vois, d'attirer et d'être encore meilleur. Moi, j'avais dit ça il y a quelques années, je m'étais fait un peu, je veux dire, moi, j'ai pas envie qu'on monte la première ligue comme étant, tu vois, la référence. Et nous, non, la Silicon Valley du foot mondial, elle est en France, quoi. C'est-à-dire que les pépites,
l'appelles la Silicon Valley.
Oui, parce que quand tu regardes
les startups,
la balance,
on ne sait pas les faire grandir.
Pardon ?
La start-up, la Silicon Valley, ils arrivent à créer des start-up et les faire grandir. Oui, oui. Sauf que nous, on ne peut pas se considérer comme une Silicon Valley parce qu'on arrive à créer des start-up, mais elles grandissent ailleurs. Oui. C'est ça la problématique.
Tout à fait. Mais en tout cas, on a la matière première.
Voilà.
Tu as raison.
On a un incubateur.
Mais tu as tout à fait raison. La Silicon Valley, ils ont réussi à les garder, ce qui n'est pas notre cas. Mais on n'a pas, je pense, ni de complexe à avoir, ni de crainte à aller les chercher, entre guillemets. Moi, j'aime le sport, donc j'aime la compétition. Je me mets en face de la première ligue à travers ce qu'on fait, nous. Quand on réussit à attirer, nous, McCourt pour acheter l'OM, effectivement, ils regardaient un club anglais au même moment. Eh ben non, tu peux réussir.
De première ligue ou championship, parce que c'est pas le même budget.
De première ligue.
Ok.
Enfin, un anglo-saxon, un américain.
Plus.
Et puis dans le monde aujourd'hui, tu es sur un marché mondial. On a des histoires qui sont fabuleuses de clubs. Tu vois, on a quand même. Je suis pas socialien, mais quand tu te plonges dans l'histoire de ce club, un résistant quoi qui est à l'origine, tu vois, de l'histoire du club. Donc tu as des histoires qui sont. C'est pas toi que je veux le dire.
On a tout ça, on a des clubs en plus historiques. Après, la problématique peut-être, c'était que les présidents de ces clubs-là, quand ils entendent qu'éventuellement il y a un acheteur, ils ont la folie des grandeurs.
Il
faut juste vendre au bon prix. C'est un peu comme tu as ta maison, tu as des liens, tu as des bons souvenirs et tu la vends pas, tu veux pas la, t'arrives pas à la, à la vendre au prix.
Tu as raison. Je pense qu'il y a cet espoir de ça peut vouloir toujours plus, mais il faut savoir que techniquement, on sait faire ça nous aussi. C'est-à-dire que tu peux tout à fait avoir des mécanismes qu'on appelle nous burn-out, dans lequel quelqu'un, plutôt que de vendre 100%, il peut avoir, recevoir une partie du prix et recevoir un complément de prix selon les performances. Donc, trouves toujours en droit et en finance.
Il y a toujours des solutions.
Oui, des solutions. Tu vois, on le voit dans les transferts. Regarde l'ingénierie qui s'est développée dans les transferts aujourd'hui.
Donc, pour une vente de club aussi, tu peux faire
ça. Tu peux tout à fait avoir des mécanismes. Et puis, tu peux avoir aussi. Moi, j'essaie quelquefois de préconiser ces solutions-là. C'est d'avoir aussi, peut-être, quand un actionnaire est en difficulté, plutôt que de lui dire allez, dégage. Peut-être que tu peux venir l'aider, tu peux dire voir où est-ce qu'il est en difficulté, s'il a besoin peut-être de fonds supplémentaires, tu te mets à côté de lui, et puis rien ne nous dit que certains clubs qui ont vu rentrer, tiens, quelques-uns de clubs qui aujourd'hui sont en train d'ouvrir la porte à des actionnaires
de plus en plus,
tu vois, y compris ceux qui,
au départ,
dont on pourrait penser qu'ils ont tous les moyens du monde. Mais non, parce que c'est assez malin, tu vois, d'ouvrir ton tour de table, de faire rentrer de la compétence, du sang neuf, une vision différente. Donc, tu as eu raison de poser la question, pourquoi ils viennent pas encore trop, les grandes familles, etc. Il y en a quelques-unes, encore une fois, la famille Pinault. Donnons-leur envie de venir, quoi. Créons les conditions de les rassurer. Ouais. Il y a eu quand même beaucoup d'histoires, cette histoire de la Coupe du Monde en Afrique du Sud, ça a marqué un peu les esprits, tu vois. Il y a eu quelques faits divers avec certains joueurs qui ont...
Tu as raison. On a des industriels qui ont des riches familles, qui ont des énormément de moyens, qui pourraient investir, effectivement. Oui. Mais par contre, c'est vrai que l'image du foot, les mots MAUX du foot, fait que ça peut faire peur.
Qu'est-ce qui attire du coup les investisseurs étrangers dans le championnat français? Par exemple, tu disais dans l'exemple McCourt, il a regardé en Première Ligue et en France. Quels sont les atouts que toi ou que la France peut faire valoir auprès d'investisseurs étrangers?
C'est une très bonne question. Il y a plusieurs choses. D'abord, économiquement, il n'est pas très cher. Comme les droits TV ne sont pas très chers, tout le modèle économique fait que la valeur des clubs, ça a bien progressé, mais était quand même déconnecté, notamment des clubs de Première Ligue. Et donc, c'était, entre guillemets, des opportunités d'investissement qui n'étaient pas très élevées. Il y a quand même cette idée que le foot français rayonne à travers ses joueurs, à travers son équipe de France, à travers ses clubs en compétition européenne quand ça marche bien. Donc, on a une belle vitrine, entre guillemets, et comme les objets à l'intérieur de la vitrine ne sont pas très très chers, ça a attiré du monde. Il y a eu quand même, à un moment donné, une effervescence dans les années 2000 autour des transferts. Les transferts ont cristallisé beaucoup d'intérêt parce que tu avais, ce qui maintenant est interdit, la propriété économique des joueurs qui a vraiment attiré les gens qui voulaient spéculer. Ouais. Et ça donnait lieu à des choses quand même qui étaient terribles parce que tu avais des joueurs qui ne savaient pas qu'ils appartenaient.
Qui venaient du Brésil. Brésil, Portugal,
vraiment, ce sont des mesures de restriction et d'encadrement qui ont été faites. Donc, il attire, on a des bons joueurs, les histoires sont belles parce que tu vois, une histoire d'une franchise, bon, quand tu sais que ça passe de Los Angeles à New York, et c'est quoi l'histoire? Et nous, chaque histoire de club, tu vois, tu prends rien que les clubs de Ligue 1, Ligue 2, mais même National aujourd'hui, c'est des histoires fabuleuses. Et donc, il faut redonner envie, ou donner envie aux investisseurs de mettre de l'argent. Je crois qu'il faut, au niveau territorial, recréer du lien. Et arrêter d'opposer un investisseur qui arrive avec une collectivité, tu vois, que le maire se sente pas à l'aise avec. Oui, c'est vrai que ce sont des cultures différentes, ce sont des attentes différentes, mais aujourd'hui, tout le monde est lié. Ils détiennent les enceintes, les clubs ont des moyens, certes, mais ils dépendent de l'association. Et s'ils veulent avoir des joueurs et pas avoir à les acheter très cher, ils ont intérêt à former des jeunes. Donc, c'est vraiment ce qu'on dit, un écosystème et dans lequel tout se tient. Donc, je pense qu'il faut, remettre un peu la globalité, l'interaction des acteurs sur la table et se dire, tiens, on investit dans comme ça et comment on répartit bien. Et pour répondre à ta question initiale, pourquoi aujourd'hui je fais de la fiducie et j'ai quitté mon classique rôle d'avocat conseil, c'est que la fiducie nous permet d'atteindre ces équilibres-là. Elle nous permet de mieux réguler. Elle nous permet de créer des opérations dans lesquelles il y a un peu plus d'équilibre. Et ça, c'est vraiment intéressant.
Un peu sur mesure, quoi.
Oui, exactement. Ouais, sur mesure. Et puis, tu peux attirer de l'argent. Nous, encore une fois, l'achat de Sochaux, on l'a fait à travers une fiducie. Et ça a permis de fédérer des acteurs économiques. On a pu mettre les socios avec nous.
Tu peux allouer les fonds correctement.
Et puis, tu peux mettre tout. On a réussi à influencer. Ça a été accepté, bien entendu. Sinon, on n'aurait pas pu le faire. Et c'est formidable. Et ça reste aujourd'hui, à l'échelle du sport planétaire, je vais me faire moquer. On dit, qu'est-ce qu'il nous parle de Sochaux, là, on parle du PSG. Non, maintenant, la réalité, c'est que si on est capable de remettre des exemples qui montrent que le collectif fonctionne, qu'avec certaines valeurs, on doit pouvoir y arriver.
Non, mais c'est assez intéressant parce que Sochaux a été racheté par des Chinois, justement, à la pleine période où les Chinois dépensaient beaucoup d'argent. Voilà. Et au final, ça s'est avéré être un fiasco. Enfin, je n'ai pas tout suivi, mais globalement, un fiasco, comme quoi tu as voulu vendre plus au franc et ça ne s'est pas bien passé. Pour répondre à ta question, Max. Pourquoi la France? Parce que franchement, la France est l'un des pays le plus visité. La gastronomie, c'est top. Le climat, en fonction de l'endroit où tu viens en France, c'est sympa. Moi, j'ai joué en Angleterre. Sincèrement, si t'as pas le championnat et que tu vis pas à Londres, tu te fais... franchement, c'est boring. Hein. C'est ennuyeux, quoi. Donc, du coup, tu te dis, ces mêmes joueurs, tu leur dis, écoute, le championnat n'est pas trop mal, tu vas bien manger. Ah ouais, t'as du shopping, enfin t'as plein de choses qui fait
pour
que...
les joueurs, ouais, pour les investisseurs, peut-être tu te dis j'ai une plus grosse vitrine en première ligue.
Si c'est plus en business,
France,
si c'est plus en business.
Ouais, mais du coup il y a d'autres critères qui rentrent en ligne de compte.
Ouais, alors là où tu mets le doigt sur un point fort, et c'est pour ça que quand j'ai la première ligue, c'est vrai qu'on est loin derrière, c'est que du fait de la langue, effectivement, quand tu es américain, c'est effectivement, naturellement, ta culture, c'est d'aller vers les anglo-saxons. Donc, le monde anglo-saxon et le sport business, comme on l'appelle dans l'univers anglo-saxon, est très nourri de cette interaction de ces pays anglo-saxons, les États-Unis, l'Angleterre. Et ils se sentent plus, tu vois, familiers. Et voilà. Mais on a une carte à jouer parce que on a quand même une excellence dans la formation. On a quand même la chance de voir dans la diversité des territoires, tu vois, ceux qui sont dans l'Est ou dans le Nord, ceux qui sont dans le Sud. On a, je vais pas faire l'offense à Edouard de parler football, parce que c'est à lui d'en parler, mais dans cette capacité, en évoluant, y compris quand tu es jeune, de passer du temps dans le Sud, au soleil, dans des conditions, mais d'aller ensuite, la saison suivante, dans le Nord, et tu peux te retrouver confronté à quelque chose, à une forme d'adversité ou à des changements qui font que peut-être on forme aussi des garçons et des filles capables aussi de performer dans des championnats. Alors plus ou moins, il y a des choses qui sont plus ou moins réussies, mais je trouve qu'on a, alors tu as raison Edouard, c'est pas la Silicon Valley, mais en tout cas on a une mine, on a une mine et on a un potentiel qui doit nous permettre, si on est malin, quand même de monter encore en puissance et d'aller jouer notre carte à fond avec notre football, avec les atouts qui sont les nôtres. Quoi.
Moi, j'y crois dur comme fer. C'est-à-dire qu'en France, ne serait-ce qu'à Bordeaux, déjà Bordeaux, il y a le Pinard,
le nom.
Ouais. Ouais, le nom. Après, il y a Monaco, Nice, l'appellation. Monaco, Nice, t'as la Champagne. Enfin, t'as des régions où les investisseurs ils peuvent venir, ils peuvent même faire du business, du foot, du social. Enfin, ça peut être top. Mais après, c'est vrai qu'effectivement, il y a des mots MAUX, du football, qui font un peu peur. Après, peut-être aussi un problème d'impôt aussi, d'imposition, mais bon, bref, il y a toujours des solutions. Mais globalement, on a des atouts. Je partage ton avis, tu m'as redonné un petit peu plus de goût à l'optimisme. Là.
Et comment les acquéreurs savent qu'un club est à vendre, à part le président ou le propriétaire,
le
pardon.
Bon coin, le bon coin.
qui passe par les médias pour le faire savoir. La plupart du temps, c'est juste le bouche à oreille. Comment un propriétaire, un président propriétaire, pourrait faire savoir que son club est à vendre?
C'est une très bonne question parce que ça a évolué dans le temps. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, personne ne disait rien. Parce qu'il fallait vraiment être au courant. Les gens avaient, tu vois, un peu peur de dire, si je suis vendeur, c'est que le club va mal. T'as toujours un peu ça, quelquefois. Ouais. Tu vois, les gens n'aiment pas trop dire que c'est à vendre. Donc, il y a quand même des réseaux. Il y a quand même, justement, les professionnels dans le sport. Si tu appelles l'avocat du propriétaire, moi, avocat, je vais savoir, parce qu'on est soumis au secret professionnel, donc on a notre déontologie qui sécurise, entre guillemets, l'information. Donc, on a des réseaux qui permettent de savoir. On ne va jamais te dire, mais c'est comme les joueurs, regarde, ils ne sont jamais vraiment vendeurs.
Oui.
Il y a un peu de... Mais si tu as... Ce qui est intéressant, c'est qu'après, économiquement, aujourd'hui, on a quand même l'information. La DNCG, elle donne des sanctions. On sait quand un club va mal. On sait aussi quand un actionnaire n'est plus trop derrière. Maintenant, les gens l'annoncent un peu plus, tu vois, on voit des clubs qui le disent parce qu'ils se rendent compte que ça peut venir
de partout,
un peu de partout. Ça crée une complexité parce que ça renforce l'idée qu'il faut checker les gens que tu as en face de toi aujourd'hui. Et ça n'a pas, à mon sens, été suffisamment fait dans le passé. C'est que tu t'aperçois qu'il y a des gens qui sont arrivés très vite et qui n'avaient pas forcément les moyens de... Et j'ai vu, moi, des exemples concrets, je ne vais pas forcément citer, mais de clubs plutôt dans le sud-ouest. Et j'ai vu ce qu'on montrait, moi, aux acteurs.
Toi, très tôt, tu le sentais?
C'est pas ce que je sentais, c'est que j'ai vu que la documentation qui était donnée pour dire on est un grand fonds d'investissement et on gère des millions et des milliards, quand tu es un fonds d'investissement, tu gères de l'argent au nom et pour le compte d'eux.
Ouais.
Donc, tu, c'est pas ton c'est argent. Pas non, que tu, pas. Tu vois et donc, tu es dépendant de ton, de celui qui a investi au départ, que tu ne vois pas forcément. Donc, je pense qu'il y a, des, il y a aujourd'hui des outils qui permettent de checker la surface financière véritable des sociétés, tu vois, des groupes. Donc, ça a même été fait, je vais pas jeter la pierre, mais dans l'affaire Mediapro, il y a des professionnels qui étaient allés un peu regarder au fond des, et qui avaient vu que c'était quand même un équilibre qui était fragile. Tu vois, donc, on a des outils, quand je parlais tout à l'heure des outils, et je ne veux pas, moi, avoir ennuyé les auditeurs avec non, tout
ils
ça.
Aiment,
mais
ils aiment ça, ils aiment
alors,
ça.
Voilà, il y a vraiment, aujourd'hui, tu peux checker non seulement la solvabilité, la surface financière, il y a des bases de données, tu peux vraiment checker beaucoup de choses, mais tu peux aussi t'appuyer sur des outils existants, tu as ce qu'on appelle les armes anti-blanchiment, tu peux avoir des administrations qui regardent d'où vient l'argent, comment c'est fait, etc. Donc, tu as tout ça. Si tu es dans un process où tu sens que ça peut le faire, là, oui, ça peut être vraiment intéressant d'accompagner les gens parce qu'il y a besoin aujourd'hui de moyens. Ça, il est clair qu'aujourd'hui, dans cette compétition internationale dont je parlais, il y a besoin d'attirer encore des investisseurs et des gens qui vont investir.
À t'écouter, ton travail, j'ai l'impression que tu es et un traducteur, et un médiateur, et un diplomate. Où commence et où s'arrête ta mission lors d'un rachat de club ?
Alors, moi, je suis... Là, on est dans un échange, donc je me permets de dire des choses que je ne me permets pas forcément d'échanger. Quand j'ai une mission, moi, ce qui nous occupe, nous, c'est la mission que l'on a. Et quand tu es avocat fiduciaire, tu as ton contrat de fiducie, te donne une mission. Donc, nous, en fait, on définit... j'allais dire l'étendue de notre mission, c'est se mettre en rapport avec le vendeur, négocier un contrat d'acquisition avec un prix, avec une fourchette de prix, accompagner le repreneur devant la DNCG. Donc tu peux tout à fait baliser très bien cela. Ensuite, moi, à côté du technicien que je suis un OS, hein, je suis un ouvrier spécialisé du droit, je fais ce que j'ai à faire, je fais ce que j'ai appris. Il peut y avoir des échanges, comme c'est du sport, avec d'autres professionnels, avec ceux qui veulent investir dans le sport. Et là, forcément, quand on nous le demande, ça peut être intéressant de faire part d'expériences qui ont montré quelquefois, tu vois, les limites de telle ou telle approche. C'est vrai que j'ai pu voir quand même les limites de la financiarisation un peu extrême du football, mais... on le voit tous, toi, je suis pas le seul là-dessus, mais nous, ramener ces écueils-là, ramener à ce qui se passe, entre guillemets, dans l'envers du décor, tu vois, sous la face visible de l'iceberg, c'est l'opportunité de structurer les choses un peu différemment.
Et ça a été un déclic ou ça a été au fur et à mesure ?
C'est progressivement, oui, c'est progressivement. Moi, j'apprends toujours, tu sais, c'est pour ça que et chaque fois qu'on a la chance, avec mon équipe, d'avoir un nouveau dossier, je considère pas que ce qu'on a réussi avant... ce soit vraiment une garantie qu'on réussira. Et puis en plus, il y a ce qui marche et qui est visible, et puis il y a ce qui ne marche pas, qui n'est pas visible. Donc on est là-dedans, et même si on est fort de nos convictions, de notre expérience, on est très modeste dans l'approche, on est un petit acteur parmi, tu vois, d'autres acteurs, et on essaie juste de créer des relations à la fois de travail et humaines qui répondent à ce que je disais tout à l'heure, respectueuses, tu vois, de où chacun a sa place, où chacun amène sa valeur ajoutée. Et franchement, ça se passe plutôt bien, quoi.
Comment toi et tes équipes savaient qu'une opération s'est bien passée ou mal passée, ou ça se passe toujours bien, ou quels sont les critères ? Est-ce qu'il y a des signaux qui font que tu es plus ou moins content, ou vous êtes plus ou moins content, vous, toi et tes équipes ? Après, voilà, c'est aussi parce que dans le cadre de cette conversation qu'on a, tu pourrais me dire, bon, bah, ça s'est bien passé parce qu'on a été au bout et on a suivi le processus. Mais non, ton discours va au-delà de ça. Donc, comment tu...
Alors, on peut être trivial, on peut être
telle chose.
Déjà, si t'as du mal à te faire payer, c'est pas bon signe, tu vois. Si déjà t'as du mal à te faire payer. Mais au-delà de ça, il y a deux niveaux. Il y a quand même, comme tu l'as dit, le fait de boucler l'opération, d'atteindre l'objectif qui est atteint. Mais quand même, dans le sport, et je suis, moi, comme au sein de mon équipe, soucieux de notre capacité à engager des choses qui sont pérennes. Tu vois. Et c'est vrai que forcément, l'opération de l'OM, et je pourrais donner d'autres clubs, oui, les difficultés, même si nous, on n'est plus du tout dans l'histoire, notre rôle, c'est pas de gérer les clubs de foot. J'ai envie qu'ils réussissent, quoi. J'ai vraiment envie que ma courte réussisse, parce qu'il aime vraiment le sport, tu vois. Il est sorti de l'opération à Los Angeles dans des conditions difficiles. Donc, ce qu'on accompagne, on a envie de les retrouver dans 5 ans, dans 10 ans, et ça, c'est une première partie de la réponse. Et deuxièmement, comme justement, pour être cohérent avec ce qu'on disait tout à l'heure sur cette idée de bien commun, je pense qu'une opération réussie, c'est une opération dans laquelle chacun y a trouvé aussi son intérêt et son compte. Tu vois, effectivement, comme tu as l'association, tu as le centre de formation, tu as les partenaires, tu as les sponsors quand même qui sont importants, ils amènent aujourd'hui beaucoup d'argent, tu as les collectivités qui mettent à disposition le stade. Donc, et on a cette capacité techniquement aujourd'hui, alors je donnais l'exemple de la SCIC tout à l'heure, donc cette structure de la capitale variable, mais tu as dans l'arsenal technique, juridique ou financier, des outils qui te permettent quand même, tu vois, de partager, quoi, d'avoir un comme on dit nous, une répartition de la valeur qui soit équilibrée, qui tienne compte des besoins de chacun. Parce que quand tu regardes quand même les associations, celles qui forment, ils ont quand même besoin de moyens, quoi.
Et enfin, peut-être que tu, c'est peut-être confidentiel, mais comment un avocat fiduciaire se rémunère sur une vente ? Est-ce que c'est un fee, c'est un pourcentage ? C'est par curiosité, mais
honoraires.
Ça doit être encadré. Donc,
on est soumis à la même réglementation que les avocats classiques entre guillemets. Donc tu peux à la fois avoir des honoraires forfaitaires, donc proposer, tu vois, une somme pour une opération, mais tu peux aussi, nous, on aime bien faire ça parce qu'on essaie d'aligner les intérêts, de dire bah, je prends peut-être un forfait plutôt bas. Et on se fait payer au success fee. Je crois que mon jeune confrère qui en avait parlé aussi. Tu vois, on a cette capacité, on a cette chance de pouvoir aligner les intérêts. Je trouve ça plus rassurant aussi pour les acteurs qui nous font confiance, surtout quand on accompagne des personnes qui investissent dans le sport, de leur dire oui, mais voilà, si ça marche, eh ben on crée un indicateur qui fait que notre rémunération sera fonction aussi du fait que ça marche ou pas. Et pour répondre tout à fait à ta question. Aujourd'hui, parce que, tu vois, on travaille avec les socios, quelquefois, on réfléchit avec les socios. Il y a un club dans le sud de la France qui, dans lequel les socios aussi sont très impliqués. Il y a beaucoup de gens qui veulent sauver quand même les clubs quand ils sentent que ça bat de l'aile. Nous, on est à l'écoute de tous les acteurs. Il y a pas, tu vois, on n'est pas toujours le bras de ceux qui ont des moyens. Et chaque fois qu'on fait appel à nous, vraiment, on regarde, on essaie de voir si on peut être utile, on essaie de voir à quelles conditions on peut l'être en fonction du temps passé, etc. Et ça rejoint ce que je disais sur cette dimension collective et la nécessité de respecter chacun sa position, parce que encore une fois, si le jardinier il fait grève et que le terrain est le plus praticable, il y a un problème. Donc, essayons de tenir compte des besoins de chacun. Et les techniques, elles sont là. Franchement, quelques exemples sur les outils, ils sont là.
Et tu le disais au début, tu essaies de te rappeler qui t'étais au début, à toujours vouloir aider ton prochain ou en tout cas répondre. Est-ce que du coup, tu peux recevoir des mails de socios, de clubs qui sont pas forcément, qui aimeraient s'engager plus et qui te demandent des conseils ou qui te contactent de manière informelle et tu les conseilles là-dedans ?
C'est le cas, hein, c'est le cas. On a eu, je peux le citer, c'est les gens de Nîmes qui nous ont contactés, le club est en difficulté, on a échangé avec eux, etc. Après, on leur a fait une proposition. Après, il y a une question de est-ce qu'ils peuvent ou pas s'engager, ça c'est autre chose.
Et dernière question, c'est un peu à part, peut-être qu'on va l'effleurer et qu'on y reviendra plus tard, mais j'ai lu que tu avais une mission au sein du tribunal arbitral du sport. Est-ce que c'est toujours le cas ?
Je suis arbitre au tribunal arbitral du sport.
Ok, et en quoi ça consiste ?
En fait, c'est la plus haute juridiction dans l'univers du sport, parce qu'à un moment donné, pour traiter des contentieux dans le sport... il a fallu créer une juridiction qui comprenne quand même un peu le sport. Et donc, c'est un tribunal international qui est basé à Lausanne, qui fait appel chaque pays à un certain nombre d'arbitres qui est désigné. Et donc, on est sur une liste. Et quand tu as des affaires, chacune des parties désigne un arbitre. Et ensuite, il y a la désignation d'un président qui est lui...
Alors, arbitre, tu dis avocat, juge.
Non, arbitre. C'est-à-dire que là, vraiment, je ne suis pas avocat au tribunal du sport. J'écoute des confrères qui viennent. Chacune des parties vient se défendre ses arguments. Et à la fin, on rend une sentence arbitrale. Et c'est une organisation vraiment incroyable, vraiment très belle. On en parlait des fois un peu. On en parle sur le dopage. On en a parlé beaucoup à l'époque de ce qui est arrivé à Michel Platini. Mais c'est vraiment dans l'idée de réguler. C'est une institution qui est une très belle institution. Et je suis très fier d'être arbitre là-bas.
Le mot de la fin, Edouard,
ou non, tu... mais c'est très bien, penser le football, c'est ça.
Penser PEN ou PAN ?
PAN. PANSER. Oh.
Les deux.
On a fait un peu les deux, là, on a fait un
oui,
peu.
Oui, on a pensé, mais tout le monde pense.
Oui, mais il est gaillard, tu vois, donc voilà. Il peut être encore plus performant, il n'y a pas d'âge, donc.
Oui, il y a eu des symptômes, j'ai vu, il y a eu des problèmes, mais je pense qu'on peut le soigner. Là, il y a motif d'espoir, en tout cas.
Ouais.
Motif d'espoir de le soigner.
Ok, donc merci pour cette ordonnance.
et longue vie Alternative Football. Bravo encore pour ce que vous faites.
Merci encore Didier.
Merci.
À très bientôt.
À bientôt.
Alternative Football. Alternative Football. Alternative Football.
Beaucoup en parlent.
On parlera de l'effectif, de la gestion de l'effectif.
Crois-moi, ils jouent les deux contre les gars.
Mais peu le connaissent vraiment.
Parce que tu sais que malheureusement, il n'y a pas que le foot dans la vie.
Alternative Football. Alternative.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.